Et notre invité ce matin, Rémi Audou, maire de Lettré et conseiller départemental. Bonjour.
Bonjour.
Ce confinement prolongé de 15 jours qui a été annoncé hier par le Premier ministre Jean Castex, on peut dire qu'il n'y a pas vraiment de surprise, surtout dans les Hautes-Alpes, où le taux de positivité est de plus de 30%, le taux d'incidence de plus de 700 pour 100 000 habitants. On rappelle que 46 personnes sont décédées depuis le début de l'épidémie, en particulier ces dernières semaines. Le taux d'occupation des lits dans les hôpitaux est à 90%. On arrive à saturation dans les Hautes-Alpes. Pour autant, 6 Français sur 10 expliquent ne pas vraiment respecter le confinement, autant en tout cas que courant mars. Est-ce que selon vous, Rémi Audou, on a véritablement pris la mesure de cette crise sanitaire ?
Oui, je pense que les gens ont pris la mesure de la crise sanitaire. Après, quand on dit que 60% ne respectent pas totalement le confinement, on peut aussi les comprendre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de règles qui, pour les gens, sont totalement incompréhensibles. Pourquoi on va fermer certains magasins et pas d'autres? Pourquoi est-ce qu'on interdit aux gens de faire des promenades de plus d'une heure et plus d'un kilomètre? Ça, c'est vraiment contre-productif, surtout en ville. Il vaudrait mieux que les gens qui sont en ville prennent leur voiture pour aller se promener en forêt que de rester promener dans des parcs. C'est beaucoup moins problématique en période épidémique et ça pose aucun problème. Hein. Je veux dire, des clusters, des foyers épidémiques dans la montagne ou dans la forêt, il n'y en a quand même pas eu beaucoup, dire aucun.
Alors, la politique continue, hein, malgré le confinement et la crise sanitaire. Demain aura lieu une assemblée des maires au sein de la MF05. Et vous faites un parallèle sur les réseaux sociaux entre le nouveau sénateur des Hautes-Alpes, également président de la MF, Jean-Michel Arnaud, et Donald Trump, voire même un parallèle avec Vladimir Poutine, Muammar Kadhafi, Emin Dada, Kim Jong-il. Ça veut dire quoi? Jean-Michel Arnaud est en train de tenter un coup d'État?
Oui, complètement. Non, mais alors là, c'est quand même invraisemblable. Je suis vraiment consterné. On a demain donc une assemblée générale, c'est-à-dire que 170 maires et présidents de PCI sont convoqués pour participer à une réunion. Voilà, 170 personnes. À l'heure où on ferme les librairies, les salles de spectacle, les salles de sport, on convoque 170 personnes dans une salle. Pour quel objet? Pour un objet qui est de modifier les statuts de l'Association des maires de France pour permettre que l'Association des maires de France soit présidée par quelqu'un qui n'est pas maire. Donc en fait, on change les règles du jeu pour permettre à une personne qui est présidente de l'Association des maires depuis 20 ans de rester présidente de l'Association des maires. Donc, c'est hallucinant. Enfin, on a vu ça dans certaines républiques bananières ou en Corée du Nord éventuellement. Je ne pensais pas qu'on le verrait dans le département des Hautes-Alpes.
Donc simplement, Jean-Michel Arnaud veut changer les statuts. Parce qu'il n'est plus maire aujourd'hui de Dallard, il veut rester président de l'association des maires dans les Hautes-Alpes.
Ben oui, je pensais naïvement qu'être sénateur serait suffisamment prenant en termes de temps pour ne pas avoir besoin d'être en plus, de cumuler ça avec la présidente de l'association des maires. Je suis surpris qu'il s'ennuie à tel point en tant que sénateur pour devoir en plus être président des maires. Il y a beaucoup de choses qui me choquent dans cette histoire. C'est d'une part comment la préfète peut autoriser cette assemblée générale, réunir 170 personnes qui vont ensuite retourner chacune dans leur commune, pour modifier les statuts, seulement pour ce point-là. Il n'y a que ça dans les statuts qui vont être modifiés. On se réunit que pour ce point-là. Je ne comprends pas que ce soit autorisé, d'une part, en plein confinement. Et deuxièmement, ça fait 20 ans qu'il est maire, est-ce qu'il n'y avait pas un autre maire qui aurait pu exercer ses fonctions? Le premier vice-président Joël Bonafou, par exemple, le secrétaire général Jean-Pierre Candois. Je pense qu'il y avait d'autres personnes, d'autres maires, qui auraient pu être présidents de l'association des maires. Et alors vraiment, que le président de l'association des maires ne soit pas maire, on marche sur la tête.
Oui, mais il n'est pas seul à décider, Jean-Michel Arnaud. Si justement les maires sont convoqués, c'est pour décider aussi.
Oui, ben, j'espère, moi j'ai encore l'espoir. Alors, dans les statuts, il est prévu que s'il n'y a pas une majorité de personnes, si le quorum n'est pas atteint, les statuts ne peuvent pas être modifiés. Donc j'espère que mes collègues maires vont avoir quand même un sursaut de presque de dignité, j'ai envie de dire, parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter, que la dignité ne peut pas accepter en tant qu'élu, ne vont pas se rendre à cette assemblée générale. D'une part, pour des raisons sanitaires. Vraiment, je trouve que rassembler 170 personnes dans une salle, mais c'est, en ce moment, c'est vraiment complètement contre-intuitif. On se moque des gens, on n'est vraiment pas exemplaires en faisant ça. Hein. Donc, comment expliquer aux gens après qu'ils ne doivent pas se réunir pour les fêtes, à plus de 10? Bref, et en plus, est-ce qu'on doit vraiment modifier les règles du jeu pour permettre à une personne de rester en place? Et seulement pour ce point-là, je pense qu'au bout d'un moment, il faut que l'intérêt personnel d'une personne ne soit pas mise devant l'intérêt général. J'espère vraiment que mes collègues élus ne vont pas se rendre à cette assemblée générale qui est une mascarade. Donc j'ai encore cet espoir-là.
Qu'est-ce qu'il a à y gagner, Jean-Michel Arnaud, de rester président? Parce que vous le dites, et j'espère que l'intérêt personnel ne va pas primer sur un intérêt général, mais qu'est-ce qu'il aurait à y gagner véritablement que de rester président de l'AMF?
Il prépare les sénatoriales de 2026.
Déjà?
Oui. Oui, bah on a quand même assez vu que être président de l'association des maires, ça aide bien pour être élu sénateur ensuite. Donc, je vois pas quel autre intérêt il peut avoir, sauf à s'ennuyer véritablement au Sénat et avoir besoin d'une autre distraction. Mais sinon, je vois pas quel peut être son intérêt.
Revenons sur la séance plénière au sein du département des Hautes-Alpes. C'était il y a une semaine. Le montant moyen investi par le département pour chaque habitant ces deux dernières années de 305 euros, là où la moyenne nationale est de 150 euros. La conjoncture est pour autant difficile. Est-ce que vous avez peur pour les comptes du département?
Alors là où on peut avoir une crainte, c'est pas tant dans la trajectoire des dépenses. C'est un plan d'investissement qui est certes ambitieux, mais qui est tenable. La crainte que j'ai, moi, c'est au niveau de l'État, de la politique de l'État concernant les recettes du département. Là, il y a une réforme avant. Le département percevait jusqu'à cette année la taxe foncière, une partie de la taxe foncière. À partir de 2021, c'est terminé. Le département va recevoir une portion de la TVA pour compenser cette perte de la taxe foncière. Cette portion de la TVA, le département ne pourra pas la modifier à la hausse ou à la baisse. Donc, le département passe à zéro en termes d'autonomie fiscale. Le département ne peut pas augmenter ou diminuer ses recettes, c'est terminé. Premier point. Et là, le gouvernement, dans la loi de finances 2021, qui a déjà été adoptée pour sa partie recette à l'Assemblée nationale, prévoit que les départements, la part TVA va être modulée sur les 5 ans. C'est-à-dire à la baisse, évidemment. Ça fait perdre quand même pour l'ensemble des départements de France 4,2 milliards d'euros jusqu'à 2025. Donc, on a cette crainte-là que le gouvernement, une nouvelle fois, pour essayer de récupérer de l'argent, fasse perdre de l'argent aux collectivités locales. C'est quelque chose dont on est habitué.
Mais Bercy a dû aussi s'adapter par rapport à la crise sanitaire. Et justement, l'État avait anticipé un rebond de 10% de la TVA en 2021, ce qui voulait dire qu'il fallait sortir 1,5 milliard en plus. Et pour les départements, du coup, pour l'éviter, un amendement a été déposé. Ils privent les départements de ce rebond et ils toucheront une hausse quand même, mais une hausse classique de 3%. Il faut aussi s'adapter par rapport à cette crise, Rémi Houdou.
Deux choses. On ne modifie pas les règles quand ça nous arrange. Premier point, c'est quelque chose qu'on apprend aux enfants quand on leur apprend à jouer à un jeu de société. On ne modifie pas les règles quand ça peut nous arranger pour gagner. Le gouvernement ne fait que ça. Et là où c'est en plus très injuste pour les départements de modifier, c'est que le département va avoir une augmentation conséquente de dépenses avec l'augmentation du RSA. Pour le moment, le département n'a absolument pas indiqué qu'il souhaitait participer à l'effort financier que va représenter cette augmentation du RSA. Le fait de nous laisser cette part de TVA qui, certes, va augmenter, on peut l'espérer, en 2021 par rapport à 2020, aurait pu compenser cette augmentation des dépenses du RSA. Mais là encore, pour le RSA, le gouvernement nous laisse complètement démunis. Voilà, le département va devoir se débrouiller tout seul face à cette augmentation due à ça qui va arriver. On sait qu'elle va arriver parce que les entrepreneurs, notamment, beaucoup vont faire faillite. La plupart n'ont pas le droit au chômage, donc immédiatement vont se retrouver au RSA. On va avoir une augmentation immédiate due à ça. C'est pas tant pour les employés mis au chômage que l'on peut craindre parce qu'eux ont des droits au chômage, donc ne tomberont pas immédiatement dans le RSA. Mais tous les entrepreneurs, et on voit le nombre d'entreprises qui déposent le bilan, tout cela, on va arriver directement dans la trappe du RSA.
Rémi Houdou, vous le disiez, Jean-Michel Arnaud pense certainement aux prochaines sénatoriales. Et vous, est-ce que vous pensez déjà aux prochaines départementales qui devraient avoir lieu? Alors, il y a toujours un point d'interrogation en mars prochain.
J'y pense parce que, effectivement, j'ai des missions qui me passionnent. Parce que avec ma binôme Patricia Vincent, on travaille très bien. Donc, effectivement, on y pense tous les deux. Et là, pour le moment, on est vraiment très concentrés l'un comme l'autre sur nos missions en pleine crise sanitaire. Mais une fois que cette crise sanitaire sera derrière nous, ou du moins ce sera un petit peu calmé, là, on pourra s'exprimer auprès de la population pour dire si on sera candidat aux élections, si elles ont lieu.
Et si vous êtes candidat, vous verriez siéger aux côtés de quelle majorité?
Là, je pense que, si vous voulez, la majorité présidée par Jean-Marie Bernard, D'une part, a tenu le cap pendant la crise, mais surtout, globalement, sur ces 6 années, a quand même un bilan positif. Je pense que tout le monde se l'accorde. Et la preuve, c'est que il n'y a pas quasiment d'opposition au sein du département. Quand vous n'avez pas d'opposition, ça montre qu'on n'a pas grand-chose à quoi s'opposer. Donc, du coup, si Jean-Marie Bernard souhaite se représenter comme il l'a visiblement annoncé, moi, il aura mon soutien.
Il l'a annoncé sur Alpan.
S'il est réélu en son temps, je voterai pour lui comme président.
Merci beaucoup, Rémi Audoux. Je rappelle que vous êtes maire de Lettré, conseiller départemental. Merci.